Grenouille.
Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous entendrez. C'est l'émission des Quenouilles sur Radio Panique 105.4 FM et un peu partout dans le monde. On a un petit peu de chance, on a connu Octavie qui nous permet, grâce à ses capacités techniques, d'enregistrer cette émission quelques jours avant le mercredi 6 mai. Et comme la tradition le voudrait ou le veut encore, on termine encore cette saison avec la tradition d'avoir un mot qui nous engage, qui nous fait émerger. Et le mot que le dictionnaire, l'été dernier, a choisi pour nous, c'est « rogner ». Et rogner, ça nous a bien plu. On s'est demandé si on restait dans des idées d'actualité avec confinement, pas confinement, chez soi, pas chez soi. Mais en fait, rogner, ça nous a bien plu. Voilà, eh bien, rogner, c'est un verbe transitif qui dit couper en rond, qui dit qu'il y a la forme d'une roue. Rogner, rougner, rogner, renfrogner, grogner. C'est un peu tout ça qui nous a fait marcher ensemble en cette émission. Alors, rogner, c'est couper quelque chose sur ses bords, à ses extrémités ou dans son épaisseur pour lui donner une certaine dimension et une certaine forme. On peut rogner les ailes à quelqu'un, un insecte, un animal. On peut rogner les ongles à une personne ou à soi-même. Et on peut aussi couper les parties d'une marge d'un ouvrage pour obtenir le format désiré et égaliser les tranches. On utilise alors un massicot. Voilà un beau mot, n'est-ce pas, les quenouilles, massicot. Et rogner, c'est aussi ôter, retrancher une petite partie de ce qui appartient ou revient à quelqu'un. Est-ce qu'on est rogné? Est-ce qu'on rogne? Est-ce qu'on s'entrogne? Voilà, c'est le verbe et le mot qu'on va utiliser pour grogner ensemble. Et on va tout de suite démarrer avec... Il y a plusieurs quenouilles ce soir, j'ai pas dit les noms, mais vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et on accueille quenouille Justine, qui est là pour sa première fois. Et comme nous toutes, on a eu une première fois, en général, un peu autour de la peur, mais nous sommes là, quenouille Justine. Voilà, je vais laisser la parole à quenouille Delphine. Quenouille Delphine, c'est à toi.
Salut tout le monde. Bonjour, rogneuse du jour. J'étais partie aujourd'hui pour passer un morceau d'un certain Serge Gainsbourg, et puis de fil en aiguille, tricoteur, détricoteur, faiseur de trous qui m'avait rappelé une chanson de mon enfance, m'a amené à questionner moi le personnage en soi. Hein, on ne le présente plus, ce Serge. Enfin, on présente ses jolies facettes, mais peut-être pas les moins connues, celui de Lemon Ancest et de l'homme de son époque, on va dire, qui avait la confusion, si ce n'est des genres, en tout cas des générations. Donc là où je voulais venir avec lui et sa fameuse chanson du poinçonneur, que vous connaissez peut-être tous, c'était plutôt venir à questionner ses petites mains, ses petits métiers, tous ceux qu'on appellerait aujourd'hui les premiers de cordée. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à questionner un peu plus ce terme de rogner qui me ramène à rognon, qui me ramène à quelque chose qui mastique, quelque chose qui dit la viande. Et de fil en aiguille, ça m'a ramené, je vais en parler maintenant, à un tout petit livre qui s'appelle Steak Machine, qui a été écrit par Geoffroy Le Guilcher et qui a été publié, je vais vous le dire, vu que je l'ai sous la main, une petite édition qui sont les éditions de la Goutte d'Or. Je ne sais pas si l'une d'entre vous connaisse déjà ces éditions ou pas, mais ce livre, c'est le résultat d'une enquête de Geoffroy Le Guilcher qui, suite aux vidéos diffusées par une association, qui est l'association L214 ou L.214, si je le dis bien, qui mettait en avant les conditions d'abattage des animaux dans les abattoirs, et notamment ceux du sud-ouest de la France. Donc lui, il a décidé, sur les conseils de son éditeur ou éditrice, de choisir un des abattoirs, qu'il appelle sa Rolls des abattoirs d'ailleurs, qui se situe en Bretagne, et de venir parler non pas seulement des conditions d'abattage des animaux, qui sont somme toute terribles, mais aussi des conditions des hommes qui travaillent, et au final se pencher sur ces hommes qu'on dirait monstrueux. Donc je ne vais pas aller plus loin maintenant, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais j'aimerais juste vous lire un petit extrait ou des morceaux, des rognons rapportés de ces ouvrages. Donc pages 12 et 13, je vais volontairement tronquer dedans, mais voici, je commence. J'ai choisi la Bretagne, région abattoir de la France. On y emploie 30% des salariés de la filière viande. Chaque année, mon abattoir génère près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et abat 2 millions d'animaux. À la journée, cela signifie la mise à mort de 600 bœufs et 8500 porcs, aussitôt transformés en carcasses, puis dans la semaine, en barquettes. J'ai atterri sur une chaîne d'abattage dite « chaîne bœuf » et j'y ai travaillé 40 jours. Au fil de mon immersion, j'ai vu mes doigts se bloquer un peu plus chaque matin, jusqu'à une demi-heure après mon réveil. Je n'exerce pas un métier manuel, c'est vrai. Cela dit, je suis plutôt sportif et j'ai déjà été manœuvre dans le bâtiment pendant 4 étés successifs. Le travail à la chaîne est violent, incomparable. Chez Mercure, la direction a fait disparaître la souffrance animale en la dissimulant derrière un mur. Entre ma première visite à l'abattoir, le 13 juin 2016, et mon embauche, le 18 juillet 2016, la zone qu'on appelle en interne la tuerie a été isolée du reste de l'usine par une cloison pour la soustraire au regard des visiteurs occasionnels et des intérimaires. C'est la réponse de Mercure aux vidéos publiées par L214, son moyen de cacher les mises à mort ratées d'environ un animal sur 5. Les animaux se débattent, luttent et se réveillent parfois d'entre les morts, la gorge pourtant tranchée depuis de longues minutes. Ces revenants hantent les cauchemars des ouvriers. Comment les tueurs supportent-ils cette violence quotidienne ? On s'habitue, m'ont-ils répondu. L'habitude n'est pas ici synonyme d'insensibilité, mais plutôt d'adaptation au dieu fou de l'abattoir, la cadence. Une vache abattue chaque minute. Ce rythme absurde engendre, entre mille joyeusetés, la maltraitance animale et humaine. Les deux sont indissociables. Voilà pour le petit extrait. Je ne sais pas si vous souhaitez tisser des liens, faire des parallèles avec certaines situations qu'on vit actuellement, hein, de ces premiers de cordée, que ce soit dans les hôpitaux ou derrière les machines à coudre ou auprès des personnes qu'on alimente, qu'on souhaite aider. Mais voilà, j'aimerais qu'on réfléchisse à l'idée de cadence aussi, peut-être, de toutes ces personnes dont on rogne les contours actuellement.
Ouais, merci que nous, Delphine. Mais en fait, moi, j'ai lu cette enquête, j'ai lu ce texte, et le gars est toujours dans cette perspective qu'il est journaliste et qu'il va être là temporairement, que ça va être juste un moment. Et puis, à son arrivée, je crois, le premier jour, il y a un gars qui lui dit « Ouais, je suis comme toi, moi aussi, je suis arrivée là et je me suis dit que j'allais rester 3 mois, le temps d'un stage, le temps d'une formation, le temps d'un truc, machin, etc. » Et ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, etc. Et c'est vraiment la question du corps qui, au départ, résiste à l'idée d'être tout doucement lui-même abattu, lui-même dans cette perspective de cadence qui n'est absolument pas respectable et respectée par ailleurs, et tout doucement de rentrer en configuration avec être lui-même l'animal de la machine, du système, etc. Et donc, bon, c'est un temps assez particulier parce que je crois que l'enquête dure 3 mois aussi, ou 5 mois, c'est pas si long que ça.
Non, c'est pas si long que ça, hein, mais effectivement, on a le temps de voir la transformation assez hallucinante et on regarde presque en miroir tous ces ouvriers qui sont déjà là, effectivement. Il y a une réflexion, bien sûr, sur le corps animal, mais aussi et surtout sur le corps de ces hommes. Ouais. Et ce que tu dis renvoie quelque part à cette fable de la grenouille, cette idée que si tu jettes une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, son réflexe va être de sauter et de s'échapper, effectivement. Mais ouais, si tu tapes la grenouille dans une eau froide et que progressivement tu chauffes, elle ne s'enfuit pas. Et bien là, ça m'a donné un petit peu le même effet, c'est-à-dire que graduellement, et on le voit aussi très bien dans son enquête, il va se rapprocher de plus en plus du tout début de la chaîne d'abattage et on ne l'y met pas directement. D'abord, il va être conditionné au traitement très très lointain, presque au niveau de la mise en barquette, pour que le lien ne se fasse pas entre la viande et la vache, quelque part. Et petit à petit, il va habituer son corps à un traitement de plus en plus difficile et petit à petit, il va remonter toute la chaîne de l'abattage jusqu'à arriver au plus près du moment où bah, les animaux sont alors d'abord choqués, puis abattus, ouais, enfin plus ou moins abattus. Et c'est cette progression lente, sournoise et implacable qui m'a vraiment marquée dans ce livre. Et j'ai l'impression, pour faire un petit parallèle avec la situation de confinement qu'on vit à l'heure actuelle, quelque part, on vit en miroir inverse une espèce de lent déconfinement après une sidération initiale qui nous a tous mis face à quelque chose de très violent et auquel on s'habitue progressivement et on fait croire qu'on va pouvoir s'en déshabituer progressivement. Voilà, c'est un peu l'effet que ça me fait.
Ouais. Bon, juste, il y a un super documentaire de Manuela Frésil qui s'appelle « Entrée du personnel ». Voilà, parce que dans Steak Machine, il y a la question du journal intime, entre guillemets, et donc on se fait nos propres images. Mais donc, entrée du personnel, c'est le point de vue du corps humain, en effet, du corps du travailleur et de la travailleuse, à travers le prisme de l'abattoir. Donc, tout ce que est dans Steak Machine ou dans nos représentations des abattoirs est ici montré du point de vue du corps de l'humain. Et donc, voilà, ça s'appelle Entrée du personnel. C'est sorti il y a à peine une dizaine d'années, je crois, qui est assez incroyable sur cette notion de cadence et de surcadence et de subproduction, etc., etc. Mais Octa, tu disais ?
Oui, parce que de mon côté, je me suis pas mal intéressée à toutes les femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, 95%, vous voyez, qui font bénévolement ou pas, justement, des masques et des blouses en ce moment pour les hôpitaux, pour les gens qui en ont besoin, pour les assos. Et il y a en ce moment tout un mouvement qui s'appelle Ballet Masque, qui est né en Belgique et qui est en train de gagner en France, qui naît de la part de couturières qui sont mises à produire des masques pour la société. Et il y a un interview absolument magnifique d'Annabelle Lox, notamment dans une autre émission de Panique, que je vous recommande vraiment d'aller écouter sur Radio Pandémique. Je ferai un lien vers cette émission-là. Je me suis dit que je n'allais pas la réinterviewer, elle avait déjà été tellement bien été là-bas. Elle, par exemple, elle est costumière de métier et elle s'est mise donc à faire des masques, déjà parce qu'elle pouvait en faire, mais aussi parce qu'elle n'avait plus de métier et qu'elle a cherché un moyen de rendre service, mais sans s'oublier non plus. Et quand elle raconte que quand elle s'est mise à créer les masques, elle s'est retrouvée à devoir recréer un métier à la chaîne, par exemple. Et de se retrouver 7 heures par jour penchée sur une machine à refaire toujours les mêmes gestes. Et ça l'a mise extrêmement en colère que d'un coup, l'État demande, notamment en Belgique, de produire ses masques bénévolement et ne considère à aucun moment le fait que c'est un réel métier, avec des conséquences physiques, en plus sur le corps et sur l'esprit. Et qui a eu une mise en place d'une pression en plus pour l'appel au bénévolat. Elle raconte que quand on appelle le call center pour se rendre bénévole, pour créer des masques pour les communes, ce sont les mêmes pratiques qui sont pour les enquêtes. On vous fait dire oui plusieurs fois, à savoir, voulez-vous produire des masques pour aider ? Oui. Avez-vous une machine à coudre ? Oui. Avez-vous le tissu pour le faire ? Oui. Et à partir de là, on vous demande de produire 50, puis 100 masques, et tout ça sans aucune rémunération ou prise en compte du fait que c'est un réel travail et que certaines personnes ont un vrai savoir-faire en plus pour le faire et que ces personnes existent en plus dans nos villes. Et elle souligne en plus le fait que, comme par hasard, c'est essentiellement des femmes qui font ça et qu'il se trouve que c'est un métier féminin, que comme il y a cet acquis un peu malheureux que les femmes sont plus portées que les hommes sur l'aide à autrui, on l'exploite plus facilement aussi. Elle notait par exemple, et ça me faisait halluciner d'y penser, elle disait, par exemple, on a rouvert les bricots, mais pas les merceries. Elle se retrouve à galérer pour essayer de produire ses masques, où elle en plus, elle a fondé une association, je tiens à le dire, qui s'appelle les Masques de Bruxelles, où on peut acheter les masques pour pouvoir soutenir les gens, parce qu'elle, elle fait en sorte que tout le monde soit payé. Et pour moi, de mon côté, avoir participé à des assos, effectivement, pour faire des masques bénévolement, j'ai été effectivement contactée par des gens qui proposent, je ne sais plus, 2 euros le masque ou 50 centimes le masque. Enfin, c'est ridicule, en fait, ce n'est pas un salaire, ça paye à peine les matériaux. C'est effectivement une exploitation pure et simple qui se met en place. Et elle pose très justement la question de dire, est-ce que si ça avait été un métier masculin, est-ce qu'on l'aurait... est-ce que de la même manière, on l'aurait demandé bénévole, une participation bénévole ? Ben, c'est pas sûr. Voilà. Amy, tu proposes qu'on enchaîne avec le son de Juliette, une chanson des petits métiers, et je pense que c'est une très bonne idée.
Ils arpentaient les rues et campaient sur les places, chargés d'objets obscurs, de graines ou bien de vin, proposant tout ou rien. Et de bien peu vivants, leur grand cri appâtant, la veine populace. Ils arpentaient les rues et campaient sur les places. Oh combien je regrette leur voix et leur musique, leurs mains escamotant, les piécettes d'argent, pour service rendu à quelques bonnes gens. Et leur air de se foutre de la chose publique. Oh combien je regrette leur voix et leur musique. que sont donc devenus la ramailleuse de bas, le crieur de journaux et la loueuse de chaises, où donc se sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteau et le sucreur de fraises, qui donc les a revus le vendeur de mourants, la porteuse de pain et le montreur de vue. Ils ont bien disparu, le grilleur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues. On n'achetait pas que terrestre nourriture. Autrefois, dans nos rues, on y trouvait aussi des colporteurs d'histoire et des marchands d'oubli. Et il y avait du rêve plein les petites voitures. On n'achetait pas que terrestre nourriture. Que sont donc devenus la faiseuse d'embarras, l'accordeur de violon et la teneuse de jambes, où donc se sont perdus la liseuse de drap, l'ensommeilleur de plomb et le violeur de gambes, qui donc les a revus l'écriveur de tartines, la vorteuse de choux et le fouteur de guignons. Ils ont bien disparu, le lécheur de vitrine, la bourreuse de mou et l'encaisseur de nions. Certains étaient tenus à l'écart de la foule, exerçant un négoce un peu plus inquiétant, facteur de basses œuvres et vendeur d'orviétan, artisan du frisson, expert en chair de poule. Certains étaient tenus à l'écart de la foule. Que sont donc devenus la toucheuse de bœuf, l'enjoliveur d'obus et le pinceur de louche, où donc se sont perdus le dénoueur de nœuds, la torcheuse de cul et l'enculeur de mouche, qui donc les a revus le dépendeur d'andouille, la mangeuse de santé et l'étouffeur de vent. Ils ont bien disparu, la gonfleuse de couilles, le démorveur de nez, les trieuses de glands, la tripoteuse d'acné, le faiseur de mauvais sang, la fileuse de diarrhée. Et les carisseurs d'enfants.
Ben voilà, c'était Juliette Noureddine avec cette fin finale. Non, Octa, on pouvait pas couper Juliette Noureddine, c'est impossible. Ce bouquet final à la fin, c'est pas possible. Du coup, bon, c'est encore moi qui parle. Donc, je disais dans le chat, ça suffit. Mais voilà, moi, je vais alors quand même prendre cette place-là pour parler et donner la voix à des amis poètes que j'ai rencontrés en Haïti en automne dernier. Et donc, j'ai eu la chance de connaître, entre guillemets, je suis ironique ici, le confinement avant le confinement. Savoir que Haïti est un pays qui est en confinement depuis à peu près une vingtaine d'années, et il y a 10 ans, il y a eu ce séisme qui a confiné le pays et les âmes et l'esprit, en tout cas momentanément, voilà, des gens et des Haïtiens et des Haïtiennes. Et donc il y a une association qui s'appelle Loc Urbaine qui a invité des poètes de Belgique. Et j'ai eu la chance, avec Lisette Lombé, entre autres, d'être invitée là-bas. Et j'ai lancé un petit appel à mes potes de là-bas en disant, ben voilà, vous, le confinement, ça vous fait peut-être un peu rigoler parce que vous vivez ça depuis un petit temps. Alors, rigoler encore une fois de manière ironique. Et je leur ai dit, ben voilà, je vous donne le mot des quenouilles, c'est rogner. Et puis, ben, vous avez des poèmes minutes. Alors, les poèmes minutes, c'est la manière de rogner la poésie. On fait de la poésie pendant une minute et ça suffit. Et voilà, on a eu 3 réponses. Et donc, Octa, j'imagine que tu peux les enchaîner. Et donc, Loc Urbaine, c'est une des associations qui était à l'initiative de ce festival de poésie en Haïti. Et on entendra aussi des gens que j'ai rencontrés sur place qui font partie de l'association Vague Littéraire. Ils ont d'ailleurs une revue qui s'appelle Docréis sur la page Facebook des Quenouilles. On mettra toutes les références, comme ça vous pourrez aller un petit peu plus loin. Et sinon, Quenouille Valentine peut vous parler aussi de la revue Docréis parce qu'elle est un peu impliquée dans cette histoire-là. Voilà, donc on a Franz Kerby, on a Jean Herrian Samson et on a Jean d'Amérique qui est, lui, confiné en Belgique. Et donc, si vous entendez l'expression « pays lock », ben, « lock » comme « lockdown » ou en tout cas « serrure » et puis « pays », ben, ça veut dire « pays ». Donc voilà ce que j'ai aussi vécu de loin et en touriste pendant un certain temps en Haïti.
Citoyen de la République fenêtre, je marchais parce que pied j'avais, parce que jambes à horreur du fixe. Je marchais parce que plus loin horizon, parce que vent révoque port. Je marchais tout simplement. Arrivé aux confins d'une autre civilisation, j'ai découvert la frontière, miracle de géographie moderne. Soudain, j'avais vu sur leur monde développé en cercle fermé, tant gravié sous les dents, dur à faire que leur maison, sable et eau, non pas de plage, mais baptême de nuit dans le ciment. Et voici que mortier mature, bloc partout, brique partout, pierre partout, fer partout, débordant d'acier leur portefeuille, édifier mur leur métier d'exister, et barbelés, et barrières, et agents des limites à ne pas franchir, et soldats des interdictions de pénétrer, oh quelle expertise, ouvrage de fermeture face au moindre éclair, chapeau bas, cher magicien de la quarantaine avant la lettre. Arrivé à la frontière, mon rêve avait vu sur le virus des poignées de mains refoulées, maladie pas nouvelle. Les consulats m'ont appris l'art de l'isolement, la quarantaine pas un luxe, le confinement non pas un luxe pour les passeports infectés de pays tiers. Arrivé à la frontière, mon arsenal solaire s'est mis en marche, déployé sang vers le cœur frère, dégainé le poème oxygène, rogné les murs qu'une fissure nous sauve, qu'une brèche naisse, qu'un arbre s'élève et que les branches propagent la bonne nouvelle. Rogner les ombres qui tranchent gorge, qu'un printemps parle, qu'une langue vivante lèche nos paysages. Rogner les murs, que de nos fronts s'éclose une fleur humaine, qu'un jardin voit le jour où reverdissent les étoiles citoyennes de la République fenêtre.
Déjà une éternité à attendre la pluie pour donner à boire aux soleils assoiffés, assouvir nos espoirs du chatois d'un ciel pur, qu'on peut encore goûter sans risque, à nettoyer l'effroi des ombres solitaires qui épient la danse de l'arc-en-ciel. De ces poussières iridescentes, tente de redessiner un sourire sur les visages atterrés. Une brise solitaire traîne dans les rues des trottoirs rouillés, ces derniers pas qui habitaient la ville muettes maintenant. Le temps cicatrisé dans nos rêves d'étreindre la lune jusqu'à devenir astre à la timidité des nuits. Encore cloîtré, idem, depuis, nous évoquons la heure, toujours en fuite. Il ne donne qu'à écouter le cliquetis des heures qui glissent, telle une rivière en crue, emporte les silex jusqu'à l'épuisement. Des murs haussés, pareils des étendards. Et derrière chaque rempart, les soleils passent, nous ignorent comme une foule trop dense. Surgit soudain en nous l'envie d'affûter nos ongles, puis manger nos doigts, puis nos paumes, jusqu'à nous libérer des chaînes aux poignets, sauter par la fenêtre, embrasser le vent et sentir l'innocence des jours, tatouer le poème sur la peau et jaillir. Car l'attente n'est qu'un virus qui ronge le rêve de l'intérieur, le laissant carcasse vide.
Temps de pluie, écume de souvenirs sur des rêves vides, mus au gré du vent. Éraflure d'ivresse, étreinte des paupières. Pas en grève, pensée vagabonde, soudain, silence. Une miette de lueur s'échappe des nuages. Bientôt, le soleil rira, à gorge déployée.
Alors, c'était l'association Loc Urbaine, invitée par Milady, Quenouille Milady, à faire des poèmes rognés autour de 1 minute. Et on vient d'entendre Jean d'Amérique, Jean-Hérien Sanson et France Derby Mathieu. Et on s'est toutes vraiment régalées à écouter ça. Donc, merci à eux pour cette participation. Franchement, je suis épatée, quoi. Et maintenant, on va avoir le plaisir d'écouter Quenouille Valentine qui va nous parler de son rognier, de ses rogniers. Enfin, voilà, moi, j'ai hâte de t'écouter. C'est à toi.
Bonjour à tous et à toutes. Dans le monde du papier imprimé, qui est mon hobby ou mon travail à moi, au choix, selon comment on voit les choses, dans le monde de l'édition, donc, qu'elle soit macro ou micro, rogner, c'est le point final. Ce qui permet de mettre au bon format, d'aligner les bords, d'égaliser, le dernier coup de baguette magique qui fait d'un ingénieux pliage un livre ou un livret ou un fanzine. Rogner n'est pas toujours obligatoire. On peut juste agrafer ou coudre les pages, plier les unes dans les autres. Mais si on insiste pour faire marcher le massicot, pour ce petit surplus de main-d'œuvre, ce petit surplus budgétaire souvent, c'est que rogner, c'est ça qui va faire bien, qui va nous faire sentir bien. Ce dernier petit coup de hache qui donnera sa forme, qui pourrait nous rendre fiers. On coupe les bords, on égalise, le résultat est presque parfait, c'est bien fini. À l'heure du hashtag reste chez toi, j'ai fini par me sentir oppressée par tous ces appels à repenser son existence, à l'introspection, à la remise en cause. Le changement de rythme serait propice, dit-on. Propice à quoi ? À remodeler, à donner une nouvelle forme, un coup de cisaille à sa vie, ses rêves, ses désirs, ses relations, ses implications, leur donner une nouvelle forme plus égalisée avec ce à quoi on pense aspirer pour nous-mêmes et pour le monde. Nouvelle injonction pour notre être, nouvelle injonction à la productivité, rendre fructueux un temps soi-disant et pour certaines seulement libéré. Voyez le paradoxe. J'en étais par avance déjà fatiguée. J'avais plus que jamais envie de rester sur mes gardes et sur mes positions. Enfermée chez moi, quoi de mieux pour éviter de se laisser déborder? Pourtant, je sens que je déborde. Je déborde mes contours. En fait, je ne perçois pas mes contours. Je ferme les portes et les fenêtres, mais je coule par-dessous les embrasures. J'essaye de définir les bords, de dessiner les appartenances, mais ma substance s'échappe, s'étale sur les trottoirs et les territoires, traverse les océans en quête d'une butée où arrêter sa course, d'une tendre ligne courbe sur laquelle se mouler, où je trouverai enfin ma forme. Je regarde autour de moi, à l'intérieur, par la fenêtre. Je cadre, recadre pour faire du panorama des paysages. Je lorgne les images, zoome, dézoome, fais des captures d'écran des visages enfenêtrés, juxtaposés. J'enregistre une infinité de cartes postales, souvent redondantes, destiné à moi-même pour comprendre où sont les limites du monde qu'on voudrait légaliser, redécouper suivant les lignes des frontières déjà tracées et devoir décider de quel côté il nous faudra rester dans un monde de hashtag l'après auquel je ne crois pas. L'histoire déborde les balises. La disruption est un mirage qui occulte le récit de la continuité de nos histoires dont on voudrait bien rogner les irrégularités. J'essaye de me raconter nos histoires, racontons, écoutons nos histoires, et je me dis que décidément, nous ne sommes pas bien finis.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na vida. avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou.
Donc ça, c'était une chanson qui s'appelle La Mulher do Fim do Mundo, La Femme de la Fin du Monde, par Elsa Soares, qui est une chanteuse très connue au Brésil, une chanteuse de samba qui a aujourd'hui 90 ans, je pense. Et cet album-là, qui est je ne sais pas combien de dizaines d'albums elle a fait, elle l'a sorti quand elle en avait 86. Et c'est une femme assez emblématique et que je trouve très forte, qui a une trajectoire très compliquée, qui vient d'un milieu très très pauvre du Brésil et qui a inscrit un peu sa personnalité dans le paysage musical, qui a vécu beaucoup de choses, qui a un peu eu, parlant de renier, des problèmes de scalpel. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de chirurgie et pas toujours heureuse. Et pour moi, c'est assez fort parce que c'est très caractéristique d'une manière pour moi de devoir s'affirmer publiquement et de maltraiter son corps comme ça. Et en même temps, elle est là, elle a 90 ans, elle est toujours sur scène, toujours assise maintenant parce qu'elle ne peut plus se lever. Et là, dans cette chanson, elle crie le fait qu'elle se débarrasse de tout, de ses peines, de tout ça qui n'est qu'un carnaval, et qu'elle sort, qu'elle jette tout par la fenêtre et qu'elle chantera jusqu'à la fin et qu'elle veut qu'on la laisse chanter jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était mon partage musical du jour. Et puis je me tais et je laisse la parole à Queneau Justine, qui, je crois, a une humeur à nous partager aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Queneau et Valentine. Et merci, Queneau et Milady. Tout à l'heure, je me suis un petit peu cachée, je me suis reniée toute seule. Je n'ai pas osé me présenter. Donc merci beaucoup, les Queneaux. C'est super cool, je suis contente d'être avec vous. Alors moi, oui, c'est un petit billet d'humeur que je voulais partager avec vous, parce que c'est vrai que renier, je trouve que c'est un peu le mot... C'est un peu le mot qui est d'actualité, quoi. Donc, c'est parti, je me lance. Je crois que le ciel est noir. On n'y voit pas la carte, mais ça ne m'empêchera pas d'imaginer le cosmos. Le soir, c'est le moment de s'écœurer à l'idée de l'infini. Ça vous arrive aussi ? Les contours devant vous, et l'écran, et la vitre. Et la rue sans personne font même pas des champs de mouches devant les galaxies. Et la matière se grise, et les poumons se resserrent. Alors, on revient aux yeux, à soi. C'est ça la vie, je me dis. On est des bactéries. Je sens mon cul sous moi, souris d'avoir des bords et au-dessus un toit. L'air a repris du sens, et la nuit ses petites heures. L'humanité me rappelle à mon nombril de blanche, à ma rage d'être une femme, à ma honte d'être un homme. Le calme tout autour referme des sirènes, des paillettes rouges et bleues, guirlandes vers les urgences. Je sens plus loin que mes pieds, les frontières de chez moi, le rebord des fenêtres par où je vois dehors. Le tungstène taille la ville comme un petit délinquant. Il n'y a plus rien d'innocent. Les villes ont une histoire réunie sous la hache et l'histoire majuscule me vomit le paysage dans l'encre avant minuit. Maintenant, partout, toujours, il y a les gens qui meurent et il y a ceux qui crèvent. Les flics trop contents d'opérer lissent la peau nationale. L'État tous dans un coude qu'on appelle la banlieue et se mouche dans ses héros. Le temps mort a servi pour qu'on reste en cellule, pour qu'on fixe la laideur ou la chance d'un abri. J'espère que vos murs ne sont pas trop petits. J'espère que vos joies mangent leurs miettes même sans le rite à 20h. Moi, je bois ma colère et je n'applaudis pas. La fête nous réunit pour sacrer le sacrifice. J'ai pas le cœur au salut quand le courage est suivi. L'entrain a ses limites. Il réduit comme nos droits sur le feu de la loi. Surveiller et punir, isoler, investir. Il faut perpétuer, préparer la rentrée. Elle arrive. C'est le mois du muguet, le joli mois de mai. Oh, que je me réjouis de ne plus me réjouir. Que la prison s'étire comme un très grand sourire sur les mêmes parasites. Métro boulot, métro chômage, métro main vide, dodo. Ah, nos anciens barreaux. Attendez, je suis pas prête. Je veux pas redevenir coupable de mes exigences. Je veux plus des t'es naïve. Je veux plus qu'on m'admoneste des sois créative dans l'aumône à l'emploi. Je veux plus sentir le monde qui se fait racler d'en haut. Je veux plus de la gloire des mâles qui massacrent des femmes et qui broient des enfants. J'avais vu autre chose dans nos grandes parenthèses, pour une fois que je me trouvais un droit, pour une fois, nom de Dieu, que je pouvais hurler de rêve, racheter l'universel en parlant du salaire, transformer les soft skills en compétences premières, fermer l'usine scolaire où on coche des têtes pleines en retenant des bulletins. C'est quand qu'on rit d'apprendre? C'est quand qu'on s'apprécie sans le devoir des mentions, sans félicitations? C'est quand que les sciences fondent comme du beurre pour tout le monde? C'est quand, putain, qu'on se remet au jardin? C'est quand que l'art devient l'air dans la permaculture? Qu'on plante à la sauvage dans un compost utile où s'étend le patriarche, où fascistes et racistes, homophobes, grossophobes, misogynes et sexistes sont des noms de néofleurs ou des sortes de patates qu'on cueille pour la mémoire, qu'on sèche ou qu'on mijote, qu'on avale et qu'on chie. Je me souviens qu'à 8 ans, bien bordée dans mon lit, je m'en remettais tous les soirs à la longue ligne jaune qui rentrait par la porte pour éclairer ma chambre. Le plafond était droit. Tous les murs étaient là et je savais où j'étais. Alors mon père montait, la lumière s'éteignait et le noir me prenait. Et tous les soirs, comme ça, je me noyais 30 secondes dans le néant des contours, jusqu'à ce que je vois une page et dessus des visages. J'espère qu'on en est là, poussé au crépuscule, et que la page noire arrive et qu'on va se noyer vite en gueulant super fort pour des bords consentis. On se retrouve dans la rue bientôt, pour le début, là. Là, ce sera la rentrée, à partir de minuit. Le joli mois de mai, grand comme une objection, portera bien son nom. Renier, ronger, renier les planqués et les vendus. Commençons par la langue, découpons l'argument capitalo-martial. C'est le moment de faire pourtour, puisque nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble.
We'll be right back. one day I'm gonna find a precious frog. Might be my princess, maybe her name is Fred. The stupid cloud will fade to refill my fangs. This made of shock is a merry-go-round. Under a fireproof blanket, shock set, blank down, block bed, tank down, long thread, bang clowns, drop thread, bangs round, shock set, blank down, block bed, tank down, long thread, bang clowns, drop thread, bangs round.
Allô les quenouilles!
Eh les quenouilles!
J'ai l'impression que The X, State of Shock, The X et Tom Cora a disparu en
State
super
of,
bien. Quoi.
State of Shock, quoi. Ouais.
Donc voilà, bonjour les quenouilles. Moi, j'ai invité Teresa à venir discuter avec moi. Et d'abord, je pensais vous lire un petit texte issu de « Tant pis, je fonce » d'Elisa Brune, « 50 histoires pour saisir la vie ». Alors, ça fait très feel-good comme ça, mais le texte s'intitule « Métaphore pour soi-même ». Et à vrai dire, moi, j'avais envie d'explorer avec vous, Rognier, du point de vue un peu de ce que ça nous rogne dans nos corps, ce qui se passe en ce moment. Alors, je ne savais pas très bien quoi dire moi-même. Du coup, j'ai trouvé ce texte. Et puis, je voulais discuter avec Teresa qui, quand je l'ai contactée, était malade et a accepté de parler avec nous. Et je trouvais que c'était chouette de parler de comment elle se sent. C'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, alors, métaphore pour soi-même. Le corps est un autobus. Il y a 2 mois, je me sentais assise sur la banquette du fond, sursautant au moindre caillou, incapable de négocier les virages. Détestable impression d'être embarquée contre son gré. J'ai consulté mon gentil généraliste aux oreilles décollées. Le nez, dans les listings, il a dit « manque de fer, manque de vitamine D ». Classique au bout de l'hiver. Vous croyez ? Non, je sais. Incrédule, j'ai avalé les comprimés et doucement, la lassitude s'est évaporée. En ce moment, je suis clairement assise sur le siège du conducteur et plutôt en mode cow-boy. Difficile de me rappeler ce moment où je tanguais comme un paquet. Le corps est plutôt un tableau de chiffres. On a toujours tort de ne pas surveiller les curseurs. Tous les niveaux bougent, tout le temps, surtout l'hiver. Mais il y a aussi autre chose. Les curseurs ondulent et, un jour, ils entament la descente. Car le corps est un avion. Tu as appris à grimper à la force de tes moteurs. Tu as connu la vitesse de croisière. Mais il faudra bien piquer du nez. Mais aussi, il n'y a pas que des soustractions. Pendant ce temps, d'autres choses s'accumulent. Des quantités d'expériences et d'images. Des aptitudes apprises, conduire un semi-remorque, jouer aux échecs, danser la lambada, réciter Shakespeare, du savoir-faire dans toute une série de gestes raffinés. Et même au repos complet, la rêverie prospère en volute. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, le corps est un livre dont le texte s'allonge chaque jour. Merci Elisa Brune. Bonjour Teresa.
Bonjour.
Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette invitation un peu improvisée. Mais l'improvisation, ça te connaît, Teresa?
Oui.
Si. Donc en fait, Teresa, tu as déjà fait pas mal d'émissions avec les quenouilles et avant ça avec Radio Passepartout. Et je voulais dans tous les cas t'inviter aux quenouilles pendant le confinement parce que je voulais prendre de tes nouvelles parce qu'au début du confinement, tu faisais encore un stage d'aide-soignante.
Oui.
Et là, tu m'as dit que tu étais pas bien depuis une semaine, que tu étais chez toi et je voulais un peu te demander de tes nouvelles. Comment ça se passe pour toi ?
D'abord déjà, je m'ennuie et deuxièmement, ça fait une semaine comme ça, je me sens pas bien. Pour le stage aussi, j'y vais plus. On m'a demandé de rester à la maison jusqu'à que le confinement se termine et tout. Mais bon, ça va et cette réunion avec vous, ça va, ça me plaît un peu. Donc, je me sens un peu bien.
Tu te sens mieux à discuter avec nous qu'à être chez toi toute seule ?
Oui, oui, je me sens un peu mieux à discuter avec vous et comme ça, à connaître aussi d'autres personnes comme Octa, Justine, Mélodie, je l'ai déjà vue une fois, Delphine, Valentine et Westy, je ne les vois pas les deux, bon, ça va.
Et je voulais savoir, ton stage, Teresa, il a été arrêté à cause du confinement ou parce que tu ne te sentais pas bien ?
Ça a été arrêté à cause du confinement parce qu'on m'a annoncé que oui, il y a le coronavirus et que oui, je dois arrêter. Je dois rester à la maison jusqu'à le confinement finisse. C'est ça. Mais après ça, je suis tombée malade. On m'a demandé d'arrêter le stage le 12 au 13 avril. Mais moi, ça fait une semaine, 24 comme ça, je suis déjà tombée malade déjà.
Qu'est-ce que tu faisais pendant ton stage ? Parce que je sais que tu allais très loin, tu devais aller en Flandre, les transports, c'était compliqué.
Oui, oui, je dois marcher 45 minutes. D'abord, je dois quitter ici le matin, prendre mon métro et tout ça. Mais c'est loin, c'est à Hulgenberg, à Ganspool, un centre des handicapés. Bon, je suis aide-soignante maintenant, mais on m'avait changé, on m'avait amené dans un autre... Notre point où je dois travailler dans un autre domaine à cause du corona, sinon je vais transmettre soi-disant le virus aux enfants ou qu'eux vont me le transmettre. Donc, on m'a dit de changer de domaine en tant que Putzfrau. Putzfrau, c'est en tant que femme de ménage. Donc, je devrais nettoyer le bureau, nettoyer jusqu'à ce que le confinement finisse et je vais reprendre mon poste. Mais après, ça aussi, ça n'a pas trop marché parce que je n'ai pas aimé. Et voilà, j'ai dû forcer à le faire, pas parce que je n'avais pas de choix, mais juste parce que je ne voulais pas rester à la maison. Donc, je voulais un peu, voilà, voir comment ça se passe. Je n'ai jamais été femme de ménage, ce n'est pas aussi mon domaine. Donc, après, voilà, il y a eu des choses que je n'ai pas compris, mais... Mon boss est venu, m'a dit que oui, je dois rester à la maison à cause du coronavirus et me confiner quelque temps jusqu'à ce que ça termine. Après, là, je peux revenir et reprendre mon poste. Donc, voilà, je suis ici à la maison. Ça fait maintenant 2 semaines comme ça, je suis à la maison. Et là, bon, je ne me sens pas un peu trop bien. Ça fait une semaine.
Mais Teresa, écoute, j'ai envie qu'on va toutes te dire de prendre soin de toi. En fait, il y aurait beaucoup à discuter de ton témoignage, de ton stage d'aide-soignante qui se transforme en stage de femme de ménage, etc.
Oui, là, pas de problème.
Mais en fait, moi, ce que je te propose, c'est que je vais encore discuter avec toi et peut-être mettre quelque chose sur la page des quenouilles parce qu'il reste quenouille Witsi qui doit encore parler et qui n'a pas parlé. Et du coup, voilà, ce sera peut-être plus un billet d'humeur de comment tu te sens ou comment tu te sens pas bien. Et puis, on prendra le temps de réinviter peut-être à la prochaine émission parce que Tony Wetsi nous a préparé quelque chose. Et comme disait Milady dans le chat, on l'attend depuis des mois. Enfin, ce n'est pas vrai, mais on est toujours contente. Elle est déjà venue aux quenouilles. Et c'est chouette d'entendre à nouveau ta voix, Wetsi.
Merci, Teresa. Et courage à toi, Teresa.
Merci.
Merci, Teresa. À bientôt. Hein.
À bientôt.
Merci, Teresa. Et merci, Aliette, pour l'annonce. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de revenir un petit peu sur le terme renier, puisque c'est le thème du jour. Alors renier, d'après la définition du dictionnaire Larousse, le terme renier proviendrait du latin populaire rotundiare, coupé en rond. Mais vous le savez peut-être, ou alors je vous le rappelle, moi j'aime bien toujours un peu remettre en question les idées reçues. Et il y a quelques jours, Louis Georgetin, qui a été le président de l'association CRAN en France, publiait un statut assez long que je ne vais pas lire aujourd'hui, mais dont je rapporte juste quelques mots, où il nous rappelait que contrairement à ce qui est enseigné et répété partout, le français ne vient pas du latin. Le français vient du moyen français, qui vient de l'ancien français, qui vient du roman, qui lui-même vient du latin. Autant de langues très distinctes. Et donc, quand on dit que ce mot renier vient directement du latin, c'est un peu comme si on nous demandait qui était notre père et qu'on disait que c'était notre arrière-arrière-grand-père. C'est une confusion qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours, mais qu'on fait dans ce cas-ci parce que il y a un intérêt politique à vouloir présenter le français comme une langue plus ancienne et qui aurait plus de valeur aussi. Et j'ai envie de revenir sur un autre sens qu'on peut donner au terme renier, qui est celui populaire de pester, d'être furieux, d'être en rogne. Quand on a été offensé, on a souvent... dans le processus, dans les différentes étapes qu'on va suivre pour pouvoir aller vers une guérison, vers un pardon, il va y avoir la question de la gestion de la colère et la gestion du fait d'être en rogne. Et l'extrait que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chère Quenouille et cher public, c'est un extrait d'un poème d'Aimé Césaire qui s'appelle « Et les chiens se taisaient ». Et ce texte est également l'objet d'un film qui a été réalisé par Sarah Maldoror, une cinéaste française d'origine guadeloupéenne, qui est décédée du Covid-19 il y a quelques jours, il y a quelques semaines. C'était le 13 avril 2020. Et donc, dans ce texte, il y a un rebelle qui s'exprime. Il faut aussi savoir que le film a été tourné dans les réserves du Musée de l'Homme, à l'époque où il abritait encore les collections africaines de ce musée qui ont été transférées depuis au musée du Quai Branly. Donc, le rebelle s'exprime. Je commence. Mon nom, offensé. Mon prénom, humilié. Mon état, révolté. Mon âge, l'âge de pierre. Ma race, la race tombée. Ma religion, mais ce n'est pas vous qui la préparerez avec votre désarmement. C'est moi, avec ma révolte et mes pauvres poings serrés et ma tête hirsute. Je me souviens d'un jour de novembre. Il n'avait pas 6 mois et le maître est entré dans la case fuligineuse comme une lune rousse. Et il tâtait ses petits membres musclés. C'était un très bon maître. Il promenait d'une caresse ses doigts gros sur son petit visage plein de fossettes. Ses yeux bleus riaient et sa bouche le taquinait de choses sucrées. « Ce sera une bonne pièce, » dit-il en me regardant. Et il disait d'autres choses aimables, le maître, qu'il fallait s'y prendre très tôt, que ce n'était pas trop de 20 ans pour faire un bon chrétien et un bon esclave. Bon sujet et bien dévoué, un bon garde-quiourme de commandeur, œil vif et le bras ferme. Et cet homme spéculait sur le berceau de mon fils, un berceau de garde-quiourme. C'est la fin de l'extrait que je voulais lire, mais il faut savoir que dans la suite du texte d'Aimé Césaire, cet homme, dont le maître tellement bienveillant s'est baissé, a posé son regard sur le berceau de son fils pour lui prédire un avenir d'esclave, s'est révolté. Et je trouve cet extrait intéressant parce qu'il montre et il explique un petit peu peut-être pourquoi une génération de jeunes gens aujourd'hui en Belgique sont en colère et sont en rogne.
Merci Quenouille-Wetsi pour ce texte, pour cette redéfinition, pour cette narration qu'on doit, comme tu le dis au début, sans cesse et questionner et repositionner et aussi s'inventer aussi mm-hmm. à partir de la voix de ceux dont on choisit d'être les frères, les sœurs, les amis et les alliés. Donc merci beaucoup pour ça, Wetsi, vraiment.
Avec joie.
Voilà, et bienvenue vraiment pour tous ces mois d'attente fébriles. Voilà, eh bien, on va doucement, non pas doucement, on va vraiment vers la fin. On est à la fin, en fait, de cette émission. Et merci à toutes les quenouilles qui sont là et aux quenouilles qui nous écoutent, etc. Ben voilà, on est donc à la fois le dimanche 4 mai et à la fois le mercredi 6 mai. De toute façon, la notion du temps est complètement obsolète. Et donc, pour terminer, ben peut-être dire qu'il y a une action symbolique, comme beaucoup de choses en ce moment, sur la question de la régularisation des sans-papiers. Et donc, si vous avez l'occasion d'avoir une affiche, un flyer, une banderole à vos fenêtres, il y a la possibilité de reprendre un visuel de la coordination des sans-papiers de Belgique. Et ça, vous le voyez sur Facebook ou un petit peu partout sur les médias aussi et sur le site sans-papiers.be. Et donc, voilà, en fait, la dernière fois, on a entendu la voix de Bintou Touré, qui est membre de la coordination, qui disait que le confinement, c'est un état long, mais qui est déjà connu par les sans-papiers. Je ne sais plus quel terme elle a employé, mais en gros, le quotidien des sans-papiers, c'est déjà le confinement et ce n'est pas que depuis 2 mois. Et donc, voilà, on va essayer de chaque fois dans les quenouilles de se rappeler qu'il y a des voix qu'on n'entend pas dans les quenouilles, mais qui sont aussi nos échos, nos spectres, et que c'est aussi à nous, en tant que faiseuses de radio, de pouvoir faire émettre ces voix-là. La rediffusion de cette émission Rognée sera le 3e samedi du mois, et puis ensuite ça sera disponible en podcast, et puis sur la page Facebook on relaiera les ressources, les notes et billets d'humeur, et on remercie aussi Teresa d'être venue alors qu'elle était malade, et clairement son témoignage ne faisait que commencer, donc on s'excuse pour ça aussi, et aussi que les conversations avec Wetsy, avec Valentine, avec Justine, etc., soit parfois pas toujours à l'endroit où on voudrait. Mais donc voilà, on vous laisse avec la fin, non pas du monde, mais de notre émission. Et à très bientôt, à très bientôt. Salut les quenouilles.
Salut
les quenouilles. I've got another girl. You might be fucking her right now. I don't have an apartment. Thought if I was smart, I'd make it far. But I'm still at the start. Guess I'm contagious. It'd be safest if you ran. Fuck, that's what they all just end up doing in the end. Take my car and paint it black. Take my arm, break it in half. Say something, do it soon. It's too quiet in this room. I need noise. I need the buzz of a sub. Need the crack of a whip. Need some blood in the cup. I need noise. I need the buzz of a sub. Need the crack of a whip. Need some blood in the cup. I need. With the boy I love, cried on the streets of San Francisco. I don't have an agenda. All I do is pretend to be okay, so my friends can't see my heart in the